Bonjour à tous, bienvenue au Conseil de classe, l'émission qui parle sérieusement de sujets qui ne le sont pas du tout, ou l'inverse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, les belles mamans. Alors, la belle-mère est un terme polysémique. Alors, pour Théodore, qui n'écoute pas au fond de la classe, polysémique, ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs sens. Puisque quand on parle de belle-mère, vous pouvez parler de la mère de votre conjoint ou de la compagne de votre papa ou de votre maman. Ces belles-mères ont un point commun, quel qu'il soit. Ce sont des personnes qui sont imposées dans votre vie parce qu'elles tiennent très fort à quelqu'un à qui vous tenez très fort aussi. Peut-être c'est pour cela que nous sommes obligés de les avoir et d'être gentils avec. Et c'est peut-être l'origine de tous les clichés, de toutes les blagues qu'on peut avoir sur les belles-mères. Clichés et blagues qu'on énoncera aujourd'hui avec Émilie pour le français et la littérature.
Bonjour.
Mira pour la culture geek et informatique.
Bonjour à tous.
Et Solène pour l'économie et le droit.
Et bonjour.
Alors sans plus tarder, je vous rappelle que cette émission est faite en partenariat avec l'Université populaire du Pays viennois et je vous invite à regarder toutes les conférences sur le site de l'UPOP. Et on va commencer par évaluer nos belles mamans en littérature avec Émilie.
Eh bien, à l'occasion des fêtes, vous avez peut-être partagé vos agapes avec un personnage qui cristallise une détestation quasi unanime dans l'imaginaire collectif, la belle-mère. Une courte recherche sur la toile révèle aussitôt des articles comme « Comment supporter sa belle-mère en 5 leçons » ou « Ma belle-mère dépasse les bornes ». À première vue, la belle-mère mérite un avertissement. Il faut dire que la littérature a bien souvent moqué la belle d'oche. Qu'on se souvienne par exemple de la première scène du Tartuffe. Sous la plume de Molière, Madame Pernelle, la mère d'Orgon, apparaît comme une vieille femme acariâtre, bigote, qui morigène toute sa tribu. Hormis Tartuffe, nul ne semble trouver grâce à ses yeux, et encore moins sa jeune bru, Elmire. Dépensière, coquette et peut-être même volage, sa belle-fille serait un mauvais exemple pour les enfants d'Orgon. Bien sûr, la comédie réclame l'excès et le personnage est caricatural. Examinons les écrivains réalistes alors. Pas mieux de ce côté-là, je le crains. Dans son essai intitulé « Physiologie du mariage », Balzac écrit
« Avoir sa belle-mère en province quand on est en demeure à Paris et vice-versa est une des fortunes qui se rencontrent toujours trop rarement. »
Quant à Flaubert, voici comment il dépeint la belle-mère d'Emma. Madame Bovary-mère semblait prévenue contre sa bru. Elle lui trouvait un genre trop relevé pour leur position de fortune. Le bois, le sucre, la chandelle filaient comme dans une grande maison. Et la quantité de braise qui se brûlait dans la cuisine aurait suffi pour 25 plats. Emma recevait ses leçons, Madame Bovary les lui prodiguait, et les mots de « ma fille » et de « ma mère » s'échangeaient tout le long, chacune lançant des paroles douces d'une voix tremblante de colère. Ambiance. En réalité, ce que reproche la belle-mère à Emma, c'est de lui avoir ravi l'affection exclusive de son fils Charles. De là à y voir un complexe d'Édipe mal résolu, il n'y a qu'un pas, que je franchis allègrement, tout ce petit monde s'en serait mieux sorti avec quelques séances chez le psy. Dommage, il faut attendre le siècle suivant pour que la psychanalyse soit inventée.
Mais d'où vient tant d'acrimonie contre le personnage ?
Eh bien, Yannick Ripa, autrice de « L'étonnante histoire des belles-mères », explique que c'est la faute du patriarcat. Se marier impliquait alors de vivre sous le même toit que sa belle-famille. Et la belle-mère assurait l'intérim en l'absence du mari. Évidemment, pour ce qui relève de l'autorité, pour le reste, j'imagine que madame trouvait d'autres expédients. Et encore, souvent la douairière surveillait jalousement la vertu de la jeune épousée. La belle-fille, résignée, devait donc subir sa dictature. Mais l'avènement de la famille nucléaire fait voler en éclats cette hiérarchie acceptée tant bien que mal. Chacune, belle-mère et belle-fille, cherche à défendre son territoire et ses prérogatives. Conflit dont les maris profitent, puisque pendant ce temps, aucune ne songe à remettre en question le pouvoir de monsieur. À part peut-être la mère de madame, précisément ciblée pour cette raison par son gendre. Bien sûr, aujourd'hui, on n'est plus au XIXe siècle. Les femmes travaillent, existent autrement que par leur position domestique dans la société, et on a des psys. Faisons donc valoir la solidarité féminine et la sororité plutôt que la rivalité. Il est urgent de changer de paradigme et de redorer le blason de la belle-mère. Parce que bientôt, la belle-mère, ce sera moi. En définitive, plutôt que des avertissements, je prodiguerai donc des encouragements aux belles-mères, ainsi qu'à ceux qui les entourent. Ce n'est pas facile de sortir de plusieurs siècles de propagande viriliste.
Quelle belle chronique, merci Émilie. Puis j'adore quand vous me faites lire du Balzac, ça me donne des airs intelligents. En tout cas, la belle-mère a été redorée en littérature, ce qui n'est pas toujours le cas en musique, hein. On va le voir avec l'exemple des Vampas et la chanson « Belle Maman ». Merci, c'était Belle Maman des Vampas. Vous êtes toujours au Conseil de classe, l'émission qui parle sérieusement de sujets qui ne le sont pas du tout. Ou l'inverse, on a vu que la belle-mère était maltraitée dans la littérature et qu'il fallait lui redonner ses lettres de noblesse. Mais qu'en est-il d'un point de vue du droit? Et cette question va être traitée avec notre amie Solène Paris.
Dressons à présent un bilan concernant les belles-mères d'un point de vue juridique. De façon synthétique, nous pouvons constater qu'il s'agit d'un bilan mitigé. Romain, si tu nous entends, je me permets de te citer. Revenons-en à nos belles-mères. Pour commencer, je vais vous conter l'histoire d'une décision rendue en terre bretonne il y a un peu moins d'une décennie. Autant vous le dire d'emblée, cette histoire illustre qu'en matière de droit, les belles-mères font également preuve de vice et de bassesse. Je rejoindrai ainsi mes collègues dans leurs tristes appréciations. En 2009, une jeune femme, kinésithérapeute, décide d'ouvrir son propre cabinet. La belle-mère de celle-ci, ancienne secrétaire de banque, lui propose de l'aider pour le lancement du cabinet en prenant en charge toutes les questions administratives telles que les prises de rendez-vous des patients, l'accueil des visiteurs, la gestion des courriers. La jeune femme accepte, d'autant que son mari traverse une phase professionnelle difficile et que c'est donc elle qui assure la stabilité financière du foyer. L'implication de la belle-mère lui semble une juste contrepartie. Mais l'aide apportée, qui se devait provisoire, se prolonge finalement pendant 3 années. 3 années au cours desquelles, en parallèle, la relation du couple de la kinésithérapeute se dégrade. Et la jeune femme, proche de sa belle-mère, se confie à elle sur les difficultés conjugales et les manquements reprochés à son conjoint. Mais une belle-mère, c'est d'abord et avant tout la mère d'un conjoint. Et les reproches faits à son fils ne sont pas entendus comme attendus. Les relations du couple s'enveniment et aboutissent sur une plainte de la jeune kinésithérapeute contre son mari pour violence. Cette plainte donnera d'ailleurs lieu à la condamnation du mari. La belle-mère décide alors, en représailles, de dénoncer sa belle-fille au service de l'URSSAF pour délit de travail dissimulé et d'intenter une action devant le Conseil des Prud'hommes. Tribunal qui prononcera la relaxe de la prévenue à la suite de la remarque de son avocat. En effet, cet avocat a souligné l'étrange coïncidence du courrier adressé à l'URSSAF par la belle-mère qui était daté de la semaine qui suivait la condamnation pour violence de son fils. Cela sentait un peu trop la vengeance de la belle-mère. Mais si la belle-mère se pose en ennemi privé numéro 1, comme l'illustre cette histoire, n'oubliez tout de même pas que le Code civil lui accorde, dans son article 206, une obligation alimentaire réciproque. Vous ne pouvez donc pas, si vous êtes marié avec votre conjoint, abandonner la belle-mère au triste sort que lui réserverait le karma. Pour rappel, cette obligation alimentaire est inexistante dans les relations frères-sœurs. La loi vous impose donc plus de considération et de reconnaissance pour votre belle-mère, et beau-père bien sûr, mais le sujet n'est pas là, que pour vos frères et sœurs. Elle est peut-être finalement là la revanche de la belle-mère. Et puis, je terminerai sur une note positive, qui j'en suis sûre saura vous faire voir votre belle-mère d'un œil bien plus affectué et tendre. Le Code du travail prévoit, dans son article L3142-1, un congé de 3 jours en cas de décès de votre belle-mère. Alors, haut les cœurs! Le droit et les belles-mères semblent finalement être sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup d'avantages à en tirer, pourvu qu'on soit cynique.
Eh ben, merci bien, Solène, pour cette petite dernière pensée. On ne sait jamais, ça peut me servir, vu que je vais bientôt me marier. Et immédiatement, je laisse la place à Béranger qui va nous parler des avertissements du conseil de classe.
Oui, un gros avertissement sur ce conseil de classe, non pas pour la belle-mère, mais pour la fête des belles-mères. Pourquoi ? Bah, parce que personne ne la connaît. Hein. Autour de la table, qui connaissait l'existence de la fête des belles-mères ?
Pas moi.
Moi non plus, j'avoue.
Donc ça sert à rien que je vous demande la date. Donc vous le saurez, hein, Pierre-François Mira, si votre belle-mère est toujours en vie d'ici là, que c'est le quatrième dimanche d'octobre qu'il faudra penser à elle. Alors, qu'on soit d'accord, hein, quatrième dimanche d'octobre, c'est pas la meilleure date. Vous venez de vous saigner pour la rentrée. Vous avez bientôt les cadeaux de Noël qui arrivent. La dernière chose à laquelle vous pensez, c'est de faire un cadeau à belle-maman. Mais bon, la fête, elle est tellement peu connue que d'après un sondage Opinionway en 2016, 8 Français sur 10 jugent la création d'une telle fête inutile. Donc en fait, même les gens qui font des sondages sur la fête des belles-mères ignorent l'existence de la fête des belles-mères, puisqu'ils demandent si la création d'une telle fête serait utile. Les seuls qui s'y intéressent vraiment, bah, c'est les fleuristes, hein. C'est bon pour les affaires. Après, à l'origine de cette fête, étaient concernées seulement les belles-mères dans le sens « maman de votre conjoint ». Pour la belle-mère de la famille recomposée, il va falloir choisir. Fête des mères ou fête des belles-mères, voire les deux. Et je profite d'ailleurs de cette chronique pour tuer une légende urbaine. D'après vous, qui a inventé la fête des belles-mères ? La fête des mères, excusez-moi.
Je ne sais absolument pas.
Donc il y a une légende qui tourne beaucoup qu'elle aurait été inventée par le maréchal Pétain. Alors que pas du tout. Elle était là bien avant lui. Il l'a juste mis en avant pour booster la natalité. Et même cette idée-là, c'est pas lui qui l'a eu en premier, puisque les Américains l'ont fait en 1905. Alors par contre, j'ai du mal à comprendre le concept de la fête des mères pour booster la natalité. Perso, hein, je connais personne qui fait des enfants pour le plaisir de recevoir un collier de pâtes fabriqué dans la classe de CE2 avec Madame Michaud. En tout cas, la fête des mères vient pas du maréchal Pétain, mais je pense que les gens qui colportent cette rumeur utilisent surtout ça comme excuse pour pas faire de cadeau à leur maman, en se disant que faire un cadeau à ce moment-là, c'est célébrer les collabos, une sorte de point Godwin de la radinerie. Alors, dans la catégorie provenance de fêtes improbables vis-à-vis de la famille, on peut parler de la fête des grands-mères. Est-ce que vous savez d'où vient la fête des grands-mères ?
Eh ben, il y a une légende urbaine là-dessus aussi, non ? Est-ce que ce serait vrai ? C'est vraiment les marchands de café ?
Eh oui, c'est effectivement le café grand-mère qui l'a mis en avant pour ses 20 ans en 1987 pour booster ses ventes. Donc quand vous faites plaisir à votre grand-mère, pensez à lui offrir du café, si sa santé le permet, évidemment, respect des gestes de sécurité. Eh bien oui, en tout cas, il y a beaucoup de fêtes qui sont inventées pas seulement par des politiques ou suite à des grands événements ou des religions, mais il y a des fêtes qui peuvent être inventées par des associations, des entreprises, des personnalités, voire des mecs un peu barges. Hein. Alors un petit florilège ensemble pour le fun. Alors l'acteur canadien Derek Froggy a lancé le 12 janvier la journée Kiss a Ginger Day, qu'on peut traduire par la journée Embrasser un roux pour la discrimination contre les roux. Le 25 mars, c'est la journée mondiale de la procrastination, l'angoisse de tous les DRH de la planète. Le 13 janvier, vous avez la journée sans pantalon, l'autre angoisse de tous les DRH de la planète. Voilà, faites attention quand vous prenez le métro le 13 janvier, vous pouvez avoir des surprises. Alors, Alors, vous savez qu'il y a une journée mondiale du nombre pi. Est-ce que vous savez à quelle date elle aurait lieu?
Comme ça, je pense que ça doit être 3-14, donc je sais pas, le 14 mars.
C'est effectivement le 3-14, le 14 mars pour donner 3-14 dans le système américain où les dates sont, on annonce le mois avant le jour, donc 3-14, et c'est même pas une blague. On a Jean Bauer et Mark Sommer qui ont lancé le 19 septembre la journée mondiale du parler pirate. Ne me demandez pas pourquoi. Et je vais demander à Mira, notre informaticien, si vous connaissez le thème de la journée du 6 mai.
Eh ben non, et je sens que je vais passer pour non. Ce que je devrais pas.
C'est la journée mondiale du mot de passe. Le jour où on va dire aux gens qu'il faut arrêter de mettre AZERTY, le nom de leur chien ou la date de naissance de leurs enfants. Et on revient à la journée des belles-mères, c'est génial. Pour leur mot de passe. Alors moi, personnellement, en plus, en faisant cette chronique, donc j'ai regardé les meilleurs moments d'éphéméride. Hein, je vous donne le mot si vous voulez draguer une prof de français. Les meilleures dates de l'année. Et j'ai constaté que la date de mon Pax, le 22-12, était la journée mondiale de l'orgasme. J'ai peur d'avoir fait une promesse que je ne peux pas tenir en choisissant cette date. Donc en tout cas, vous voyez qu'il n'est inutile que la fête des... Enfin, donc en tout cas... Je sais pas si la fête des belles-mères est la plus inutile, hein, puisque entre celle de Pi, du mot de passe, etc., elle est finalement l'une des moins pires. Donc l'année prochaine, le 4e dimanche d'octobre, pensez à votre belle-maman, ça fera plaisir à votre fleuriste, et en plus, d'après certaines chroniques, elle peut vous offrir des jours de congé. Sur ce, on va enchaîner tout de suite avec une chanson, « Tes parents » de Vincent Delerme.
Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans les pays chauds et ramener des diapos. Pour Noël, si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants. J'suis prêt à tout, t'as accepté Figaro, Madame ou Libé. J'suis prêt à faire des concessions, manger de la cervelle de mouton. J'suis prêt à tout pour que ça passe, caresser leur chien dégueulasse, supporter toute la Traviata et même regarder Thalassa. Mais tes parents, pourquoi pas, font du ski dans le Jura. Cinquantaine, ils s'éclatent à l'avant du 4x4. Si tes parents nous traînaient faire du golf au Touquet, peut-être que tes parents, on les verrait pas souvent. Mais tes parents, c'est probable, le samedi jouent au Scrabble. Ils viennent juste de s'inscrire dans la chorale de Rick Vire. Tes parents au café commandent un Carpérier. Tes parents, c'est peut-être des gens à la retraite. J'suis prêt à tout, t'as accepté Figaro, Madame ou Libé. Prêt à trahir mes convictions, manger des huîtres au réveillon. J'suis prêt à tout pour que ça passe, dire du mal du voisin d'en face, supporter les Opel Vectra et même regarder Thalassa. C'est peut-être des gens béens qui regardent les soirées spéciales Joe Dassin et puis qui disent bah non, tant pis, on fera la vaisselle demain matin. Avec ta mère qui veut toujours qu'on rapporte les restes de la blanquette quand on rentre le dimanche soir à la porte Champéret, et puis ton père qui me demande alors Vincent, quand est-ce que vous faites un disque? J'suis prêt à tout pour que ça passe, caresser leur chien dégueulasse, ouvrir les boîtes de canigou. Chloé m'a tellement parlé de vous,
m'ont parlé de vous.
C'était Tes parents de Vincent Delerme. Vous êtes toujours au Conseil de classe, l'émission qui parle sérieusement de sujets qui ne le sont pas du tout. Ou l'inverse. Alors, on a parlé des belles mamans, on a vu qu'en littérature elles étaient détestées, on a vu en droit des histoires un petit peu particulières, et on a vu que la fête des belles-mères n'avait pas le succès escompté. Et ben, on va continuer en parlant de la place de la belle-maman dans l'informatique et la culture geek avec Mira.
Et oui, et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, vraiment au top, je commence à prendre goût à l'exercice de la chronique radio. C'est un challenge très agréable, surtout effectué en si bonne compagnie. Car oui, je fais partie de ces gens qui pensent que son entourage, ses amis, sa famille est un vrai moteur pour avancer dans la vie. Et tel un Barney Stinson acheté sur Wish, je pense que rien n'est vraiment exceptionnel si les gens qui nous sont proches ne sont pas là pour y assister. Enfin, les gens qui nous sont proches, c'est peut-être un peu exagéré. Il existe en effet parmi nos proches une catégorie de personnes qui échappent à toute règle de nuance, une rémanence du chaos primordial échappant à toutes les sciences, ou presque. Vous l'aurez compris, je parle bien entendu des belles-mères, et je clarifie la situation immédiatement. N'étant pas Pierre Bourdieu, je n'ai pas l'expertise nécessaire pour évoquer avec vous ce large sujet dans sa globalité. Aussi, je me contenterai aujourd'hui d'évaluer les belles-mères dans le sens restreint de mère de compagne ou de compagnon. Alors vous allez me dire, mais Mira, quel est le rapport entre les sciences informatiques et les belles-mères ? Et vous avez tellement raison de vous le demander, hein, car c'est un domaine bien flou encore et peu exploré. Mais j'ai ma théorie personnelle qui repose sur une analyse empirique, le binaire et la physique quantique. Rien que ça. Comme je le disais plus tôt, les belles-mères adoptent un comportement tout à fait dépourvu de nuances à l'égard des conjoints de leurs enfants. C'est binaire, hein, une chance sur deux. Amélie Poulain ou Freddy Krueger, c'est assez flippant. Comme pour le chat de Schrödinger, impossible de savoir à l'avance. Il vous faudra d'abord ouvrir la boîte à bijoux, et c'est seulement là que vous verrez vraiment qui est votre belle-mère. Et c'est capital, hein, d'avoir des bonnes relations avec sa belle-famille quand on est dans l'informatique. Vous allez très vite devenir leur interlocuteur privilégié pour toutes sortes de petites questions, réparations, problèmes, allant du téléphone verrouillé au choix de l'antivirus de l'ordinateur familial. Sans oublier le coup classique, l'imprimante dont ils se servent deux fois par an et qui ne fonctionne jamais quand ils en ont besoin. Mais pourtant, la dernière fois, le petit voisin du cousin du copain à machin, qui aime bien ça, lui, les ordinateurs, il l'a tout regardé et ça marchait, hein. Et autant avec une belle-maman aussi gentille que sœur Emmanuelle, passer quelques minutes pour lui rendre service peut être un moment gratifiant de partage intrafamilial. Là, ou faire là de même avec un clone de Margaret Thatcher, c'est tout de suite moins sympathique. Des heures de prise de tête en perspective, et au final, vous passerez toujours pour un incapable, puisque vous n'arriverez jamais à faire mieux à ses yeux qu'un gamin de 14 ans qui lui a fait fonctionner, lui, son imprimante la dernière fois. Bon d'accord, hein, il a installé 5 logiciels plus que douteux, des virus, des spyware. Depuis, ses comptes en banque ont été vidés 3 fois, mais ça a fonctionné 2 jours au moins, hein. Mais tout de même, avec lui, elle a pu l'imprimer, cette photo hyper importante de Claude François à l'Olympia en 1969. Je dirais donc que le travail reste très irrégulier pour l'élève belle-mère. Du très bon côtoie le très mauvais, et dans ce domaine, pas le choix, il faut s'en remettre à la chance. Bon, vu que vous m'êtes très sympathique en cette période de fête, je vais vous confier ma botte secrète pour éviter de passer tous mes repas de famille à réparer le téléphone de Tata Valou ou la console du cousin Bastien. Vous êtes prêts ? C'est assez simple, hein. Vous faites passer pour un naze, un zéro dans le domaine. Répondez à toutes les sollicitations que vous ne savez pas faire. Que ça vous dépasse, après tout, vous vous en foutez. Dites-vous que vraiment, ça vous passe au-dessus de ce que pensent de vous des personnes qui sont certains que le four à micro-ondes est une invention tellement hors de portée de nos petits cerveaux primitifs qu'on a été obligé de la voler aux aliens. Si, si, je te jure, je l'ai vu dans une vidéo YouTube. Le premier micro-ondes, ils l'ont retrouvé dans la soucoupe de Roswell en 1947. En plus, 1947, c'est en euros le prix de l'iPhone 15 Pro Max que vient de s'offrir votre belle-mère pour Noël. Alors vraiment, même en passant pour un bonnet, vous serez toujours plus malin qu'elle qui vient de passer 3 RSA dans un téléphone qu'elle ne sait pas utiliser.
Merci pour votre chronique. Alors, je garderai quand même le concept de la belle-mère de Schrödinger à réutiliser dans les dîners. Et je veux bien voir la vidéo qui explique que le micro-ondes vient des aliens. Je la ferai tourner. On peut passer de bons moments avec ça, je pense.
Je vous le garantis. C'est très, très drôle.
Alors, bon, la belle-mère, c'est un bilan assez mitigé, en fait. Hein. On se rend compte qu'il y a des aspects positifs, mais qu'elle a toujours une sale image. Pour faire l'appréciation de balle de bulletin de notre belle-maman, d'après vous, chacun à votre tour, à votre avis, d'où vient cette image de la belle-mère, en fait ?
Alors, pour ma part, je pense que la belle-mère, c'est une forme de prophétie autoréalisatrice. Hein, Robert Merton, si tu nous entends, merci. Je le convoque ici parce que finalement, la belle-mère, c'est un mythe fondateur. Et si la belle-mère n'était pas justement méchante, venimeuse, etc., serait-elle vraiment une belle-mère ? On l'attend dans ce rôle-là. Et est-ce qu'on ne lui provoque pas ce rôle-là ? Voilà le sens de ma prophétie autoréalisatrice. Ouais. Et puis aussi... il y a quand même quelques études sociologiques qui suggèrent que seulement finalement un quart des relations avec les belles-mères sont problématiques et un petit peu tendues. Et pour les trois quarts des autres, ça se passe très bien. Donc finalement, on a aussi peut-être tendance à exagérer le négatif.
Ouais, la classique quoi, un quart des élèves qui mettent le bazar et on estime que c'est une mauvaise classe.
Moi, j'avais plutôt dans l'idée que c'était sa capacité à être intrusive peut-être. Et puis sa fascination pour le repassage.
Ok. Donc visiblement, il y en a que des exemples dans les 25%.
Ben moi, je sais pas vraiment pourquoi on a cette réputation-là. Enfin, ces belles-mères ont cette réputation-là. J'imagine que, comme je le disais, hein, je pense qu'il y a un peu d'expérience quand même là-dedans. Je pense que certains se sont retrouvés face à des belles-mères affreuses. Peut-être surprotectrice de leurs enfants et qui pensent forcément qu'un individu inconnu qui rentre comme ça dans la famille est là forcément pour faire du mal et donc se retrouve en situation très difficile.
Le fameux « tu l'aimeras jamais autant que moi ». Quoi.
Exactement, ou un peu de jalousie aussi, tu te rends compte maintenant, l'affection qu'elle me portait à moi, qu'il l'ait portée dans mon ventre, maintenant il va à quelqu'un d'autre et qu'est-ce qu'il a fait lui pour elle ? Alors j'ai bien quelques réponses à cette question, mais on va pas les citer à la radio.
Alors moi j'ai une théorie personnelle, je pense que le problème c'est la bouffe. C'est-à-dire que toute votre vie, que vous soyez votre mari ou votre femme, vous lui ferez à manger, ce sera toujours moins bien que ce que faisait votre belle-mère. Parce que la ratatouille, celle de maman, elle a... Alors le secret, c'est le gras. Hein. Je veux dire, la belle-mère met plus de gras. Mais je pense que voilà, il y a un conflit gastronomique autour des relations humaines intrafamiliales et c'est vraiment, ça peut être vraiment le cœur du sujet. Bon, en tout cas, voilà, on se rend compte que la belle-mère est souvent accusée à tort. On lui mettra pas d'avertissement sur ce conseil de classe, plutôt des encouragements. Hein. On pense aux 75% de belles-mères avec qui ça se passe super bien. Et s'il vous plaît, donnez des cours de cuisine hein, à vos enfants, ça aidera beaucoup. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. C'était le conseil de classe, l'émission qui parle sérieusement de sujets qui le sont pas du tout. Toujours en partenariat avec l'UPOP, allez regarder le site. On vous dit à très bientôt, on va se retrouver dans deux semaines pour parler ensemble de la gueule de bois. Au revoir.